allons partager la parole du Seigneur ce matin. Il y a 15 jours, au cours du culte, j'écoutais Michel et tout à coup, au cours de son intervention, j'ai reçu une pensée, où j'ai reçu un verset. Et à la suite de ce verset, qui est déjà affiché, cette pensée, c'est, voilà, c'est le thème de la prochaine prédication. Je n'ai pas forcément des révélations comme ça, ou des moments où je reçois les textes d'une manière évidente. Sauf que quand je l'ai reçu ce dimanche-là, j'ai juste écrit ce verset-là, ou une partie. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Puis j'étais bien embêté après ça, parce que je sais bien qu'on aime bien entendre des choses qui sont faciles, agréables. J'ai envie de dire, comme l'apôtre Paul, on aime parfois plus entendre le lait de la parole que la viande et les repas consistants qui nous invitent à vivre certaines choses. Et puis, malgré tout, j'ai reçu ce texte-là, tiré de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et puis, je suis parti avec ça il y a 15 jours, j'ai laissé mûrir le texte en disant, mais Seigneur, tu n'as pas quelque chose de plus sympa, de plus léger, de plus facile? Parce que la sanctification, finalement, c'est quelque chose de particulier. Et finalement, j'ai retenu cela, j'étais dans l'obéissance par rapport à cette parole. Mais je ne souhaite pas faire ce matin l'apologie de la morale, être dans une position moralisatrice en disant, voilà, il y a le bien, il y a le mal, ça c'est mal, il ne faut pas le faire, ça c'est bien, il faut le faire. Non, je ne veux pas être dans une attitude non plus culpabilisante et pointer un doigt accusateur sur les fautes, le péché qui est présent dans nos vies et donc dans la mienne. Non, il s'agit d'aborder avec sincérité et honnêteté ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien du fait de notre nature humaine. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Les convertis de Thessalonique, c'est des chrétiens qui font partie des premiers Européens à accepter l'Évangile. Est-ce qu'il va leur valoir des persécutions? Ils ont aussi beaucoup de questions au sujet de la seconde venue de Jésus, de son retour. Et d'ailleurs, Paul les reprendra pour leur dire qu'ils ne doivent pas non plus se consacrer qu'à l'attente du retour de Jésus, mais à investir leur vie au quotidien et à être là aussi, à se laisser travailler par le Saint-Esprit. J'ai parfois l'impression que dans l'Église, on est plus des Thessaloniciens qu'autre chose, c'est-à-dire qu'une fois que le salut est entré, on se dit « chouette, il n'y a plus qu'à attendre le retour de Jésus, on est tranquille ». Non, il y a une œuvre à accomplir, et la première œuvre à accomplir, ce n'est pas l'œuvre pour aller seulement évangéliser, annoncer la parole, quoi qu'elle soit importante, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit est amené à faire en nous. Est-ce que cette œuvre-là, nous sommes prêts à l'accepter et à la vivre? Le chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens porte dans la version seconde le titre d'appel à la sainteté. Une exhortation qui s'exprime de manière catégorique au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et moi, c'est ton un peu catégorique, ferme, carré. J'ai du mal à supporter. Ouais, j'ai encore besoin de sanctification. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres hommes dans l'Église qui doivent être dans la même position que moi. Hein? Les ordres, on n'aime pas. N'est-on pas le chef de notre foyer? Hier, je devais aller manger avec une amie et puis ma femme. Le téléphone sonne alors que j'ai un peu de retard, etc. Et la question de ma femme, c'est « T'es où ?»« Mais enfin, j'arrive, quoi, je suis là !» Ton un petit peu vif, qu'il m'arrive souvent ou trop souvent d'avoir, et je suis concerné par la sanctification. Vous, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut entendre ce verset 3 qui dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Alors, je voudrais aussi être clair, ça concerne aussi les femmes. Soyons clairs, pour mettre la balance en équilibre. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Une affirmation catégorique et ferme. La volonté de Dieu pour ses enfants, pour son Église, c'est la sanctification. Alors, ce n'est pas dire on va écarter ce qui est mal, garder ce qui est bien. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai même envie de dire que depuis la chute de l'humanité, l'œuvre de Dieu, c'est de permettre à l'homme de retrouver au maximum de ses capacités et de sa volonté la position de sainteté qui devrait être la sienne dans son rapport au Père et à Dieu. Est-ce que je suis prêt à accepter cette œuvre-là dans ma vie ? Quand je suis arrivé à Kolding en 1978, on avait un devoir de dogmatique tous les ans à faire à peu près, puis un devoir d'histoire de l'Église. Donc moi, j'en ai fait trois, plus un de dogmatique. Et le premier devoir de dogmatique que tous les élèves, et on en parlait avec Francine, ont fait l'année où nous sommes arrivés, le professeur nous a dit « Votre thème aujourd'hui, pour cette année, en dogmatique, c'est notre appel à la sainteté ». Quand j'ai eu le thème, je me suis dit, ça ne m'inspire pas tellement. Moi, j'étais un garçon des cités HLM, etc. Mon appel à la sainteté, ça ne me parlait pas trop. Peut-être que pour des enfants de chrétiens, des familles qui ont entendu reçu ces notions-là, c'est plus parlant. Mais pour moi, mon appel à sainteté, je l'avais vécu dans ma vie personnelle à titre humain, simplement en apprenant, en me différenciant vis-à-vis de ma famille et des copains de la cité, en ne prononçant pas de grossièreté. Je refusais de dire des gros mots, alors que c'était un florilège toute la journée à la maison, en dehors, etc. Donc je dis, bon, est-ce que c'est ça l'appel à la sainteté, pas dire de gros mots ? Et d'autres choses de ce genre ? Et puis quand j'ai commencé à travailler sur notre appel à sainteté, j'ai vu qu'il en était autre chose, que la sanctification qui nous concerne, qui vous concerne et me concerne, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de Dieu. Il n'y a pas une seule personne aujourd'hui qui peut dire « je ne suis pas concerné par la sanctification ». Ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est la sanctification. Non pas pour qu'on ait une attitude morale, qu'on corresponde à un canon de comportement, mais parce que c'est le meilleur pour nous. C'est retrouver la nature que Dieu veut développer en nous et qui est celle de Christ. C'est notre meilleur. Or, on le voit souvent, se sanctifier, c'est se priver d'eux, c'est ne plus faire, etc. Non, c'est retrouver la nature divine qui est en chacun d'entre nous. Et refuser la sanctification, je vous le dis tout de suite, c'est se priver de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Tu ne sais pas jusqu'où l'œuvre de l'Esprit-Saint peut t'emmener et te faire découvrir de ce que tu es en tant qu'être spirituel au milieu de ce monde. Christine a prié en disant « Tu es venu pour apporter du changement. » La sanctification, c'est du changement. Elle a continué en disant « Nous voulons du changement. » Là, je trouve qu'elle est un petit peu à l'effort, là. Est-ce qu'on veut vraiment du changement dans nos vies ? Elle, oui. Mais c'est Christine. Mais est-ce que vous voulez du changement dans vos vies ? Et pourquoi voudriez-vous du changement ? Et là, nous avons une parole qui dit « Tu veux, toi, notre Dieu, tu veux du changement, tu veux notre sanctification. » Alors, j'avais une question de me dire, si vous aviez une définition de la sanctification à donner, quelle est cette définition ? Allez, allons-y. Donnez-moi une définition de la sanctification. Et dites-le fort, parce que mes appareils sont en panne, donc j'entends mal, j'ai plus qu'une oreille. Donc, dites-moi, qui veut dire ? Francine ?
Qu'il croisse.
Ah, les autres ? Qu'il croisse et... Ah non. Ah, que Jésus croisse en moi et que je diminue. Oui, c'est une formulation, un regard, un axe intéressant. Qui d'autre ? Qui a parlé, là ? Levez la main. Ouais. Pureté. Donc, pureté, gagner en pureté dans sa vie et son comportement. C'est ça ? D'accord. Qui d'autre a une définition ? Juliette. Alors, levez la main avant de... Juliette, vas-y.
Pour moi, c'est un chemin d'amélioration.
Chemin d'amélioration, transformation. J'ai vu une main, Christiane.
Accepter de se remettre en question.
Waouh, ouais, intéressant. Accepter de se remettre en question. Donc, tu as quelque chose à faire. Marie-Christine, tu n'as pas levé la main, mais tu as le droit de parler. Vas-y. Essayez d'être le plus proche possible des voies de Jésus. Ah, on reviendra. Oui, 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 de les suivre. Laurence ? Que Christ soit formé en nous. Vous voyez, toutes ces notions, elles sont importantes.
Moi, c'était sous-entendu en appliquant la parole.
D'accord, ouais, très bien. J'avais bien compris comme ça. Delphine ? Ça passe, la sanctification passe par la connaissance de l'amour. Alors c'est au-delà de la définition, c'est le chemin qui amène la sanctification ou la sainteté. Un autre ? Ahmed ? Aimer son prochain. Ah ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Ou je dirais même parfois s'aimer soi-même quand on doit aimer son prochain. Parce qu'il y a des fois, on s'aime moins qu'on aime nos prochains. Mais oui, tout à fait.
Être humble. Être humble.
D'accord. D'accord. Voilà. De l'humilité pour pouvoir... Alors, quelle est la définition ? Est-ce qu'il y a encore une définition ? Renoncer à nous-mêmes. Ah. Oui, mais alors on mettra un bémol. Parce que c'est une formule qui peut être, je dirais, on a ça dans le courant piétiste où, je dirais, l'être humain a à disparaître pour que Christ soit tout entier. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on disparaît totalement ? Mais c'est intéressant parce que c'est une définition qui a conduit à une certaine conception de la sanctification. Tout à fait. Rosalie ? Ah, la sanctification, c'est vivre l'efficacité de la prière. Oui ? Delphine ? Ah, le chemin, c'est l'obéissance, oui.
Faire confiance à Jésus.
Faire confiance à Jésus. Alors, on est plus sur des moyens, mais essayer de rester centré sur la définition de la sanctification. Claudie ? Ah, bah oui. Se mettre à part ou être à part. Ça, on n'y pense pas forcément. Mais la sainteté suppose la mise à part. C'est même au cœur même de la définition de la sainteté. Allez, une dernière, qui veut donner ? Michel.
Prêt au service.
Ouais, alors, prêt au service, mais c'est plutôt une des conséquences de la mise à part. Et une dernière, parce que j'ai vu Elisabeth...
Se séparer.
Bah, mise à part, se séparer. Vous voyez, oui, effectivement... la notion de mise à part et être séparé, ça fait partie de la sainteté. Vous voyez tout ce que l'on peut dire quant à la sanctification. Alors, à la fois ce qui conduit à la sanctification, à la fois ce qui est un effet de la sanctification, mais la définition, en fait, de la sainteté, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Vous avez ici une définition de la sanctification. T'as pas sauté une diapo, là ? Il me semble. Juste celle qui est avant. Qui est un peu plus... Voilà. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la sanctification signifie, dans son sens initial, séparation, ce qu'on vient d'entendre, mise à part pour Dieu, Elle est d'abord un don, une œuvre que de Dieu accomplie par l'Esprit Saint. Elle ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à se laisser pénétrer par l'Esprit Saint pour que nos pensées et nos actes deviennent semblables à ceux de Jésus, selon 2 Corinthiens 7:1. Dans la vie d'union, de plus en plus intime avec Dieu, la sanctification est indissociable d'une conversion et d'une purification constante. Cette définition a été donnée par la conférence des évêques de France en 2025. Vous savez, parfois, au niveau catholique, on a un regard qui peut être critique, voire jugeant. N'empêche que cette définition-là, moi, j'y souscris entièrement, même si j'ai eu, en prenant connaissance, un petit bémol quand il est dit « Elle est d'abord un don, une œuvre de Dieu accomplie par l'Esprit Saint ». Sous-entendu, c'est le travail de l'Esprit Saint et l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est aussi ce que certains évangéliques et protestants ont mis en avant, voire même ont focalisé sur le fait que c'est Dieu qui fait le travail. Nous, de toute façon, on n'est pas assez doués, on est trop pécheurs. Non, je veux dire, ce qui suit est intéressant, c'est à condition qu'on se laisse pénétrer par l'Esprit Saint et qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire dans cette œuvre de transformation. Donc on est, qu'on le veuille ou non, collaborateur avec Dieu pour que la sanctification s'accomplisse. Elle n'est pas uniquement du fait de Dieu dans ma vie. Parce que si on est honnête, on met souvent des bâtons dans les roues du Seigneur et de l'Esprit-Saint pour empêcher la sainteté et l'œuvre de sanctification de s'accomplir. Alors, l'autre définition, tu peux passer à la suivante. C'est la sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Ça, on est déjà davantage sur une formulation plus proche du protestantisme et notamment des courants évangéliques. Et il y avait, j'ai travaillé aussi avec un document de Wayne Grudem sur la théologie systématique, et il dit « La croissance, c'est être amené à la ressemblance de Christ », ce que certains disaient en disant « Il faut qu'il croisse et que je diminue », mais que je ne disparaisse pas pour autant. C'est-à-dire que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas comme on le pensait parfois dans le mouvement piétiste ou évangélique, c'est « il faut que je disparaisse ». Je déteste ces cantiques où il dit, par exemple, « brûle Seigneur, fais-moi, brûle en moi, fais-moi disparaître afin que tu… » Non, Dieu n'a pas pour objectif de me faire disparaître. Il a pour objectif de me sanctifier afin que ce qui est de lui en moi apparaisse de plus en plus et qu'il puisse se réjouir d'avoir une telle devant lui qui est celle qu'il a prévue au maximum de la grâce et un tel et une telle et un tel. Ça veut dire qu'il veut se réjouir de ce que nous sommes en nous débarrassant de l'œuvre du péché dans nos vies et de nos comportements qui ne sont pas glorieux. Wayne Grudem dit « C'est la croissance à la ressemblance de Christ. C'est ce qui est de Christ en nous et qui va, quelque part, sublimer ce que nous sommes, véritablement. » En fait, la sanctification est un élément du processus de salut dans la vie. Le mot « processus », ça devrait nous parler. C'est-à-dire que le salut, c'est on rentre dedans et on reçoit le pardon des péchés, etc. Et c'est une merveilleuse œuvre que d'être sauvé, d'être pardonné. Mais ce n'est que le début. Ça veut dire que Dieu veut davantage que nous soyons des êtres pardonner. Il veut que ce processus de sanctification, de mise à part, nous conduise à révéler l'œuvre que Dieu a fait en nous créant. Et fort heureusement, Michel n'est pas une reproduction de Jean-Marc, ni Jean-Marc de Michel. Encore faut-il que nous acceptions de nous laisser révéler au travers de l'œuvre de la sanctification. Alors, on peut spirituellement dire que les étapes de la vie nouvelle, la sanctification, elle commence en fait au moment de l'appel que Dieu nous adresse, où on le rencontre et on se donne à lui. La sanctification ne commence pas un an après. Dans la préparation au mariage, il y a Jacques Poujol qui explique que lorsqu'on fait alliance avec l'autre, la première année, j'ai accompagné quelques mariés ou de futurs mariés cette année, la première année, c'est la lune de miel. Dans la lune de miel, pour des futurs ou des mariés qui commencent cette année-là, on n'a pas besoin de se sanctifier, de se changer. On est dans une lune de miel, tout est beau, tout est parfait. L'autre est parfait, et aux yeux de l'autre, je suis parfait. Qu'aurais-je à faire de changer, n'est-ce pas? Puis au bout d'un an, on sort de la lune de miel, ou un petit peu plus tard, ou un petit peu plus tôt, et puis commence, pour Jacques Poujol, cette notion de définition des territoires. C'est-à-dire que pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, le couple va apprendre à définir ses territoires personnels à l'intérieur de l'alliance du couple. Et c'est là qu'il y a des frictions, qu'il y a « ah oui, mais moi je veux, moi je désire », etc. Et c'est là que l'alliance est éprouvée, puis qu'on doit construire cette définition des territoires respectifs. Et ça ne concerne pas simplement le fait que Robert a son territoire et qu'il dise « moi je ferai la vaisselle ». Et puis sa femme dit « bon d'accord, c'est ton territoire hein ». C'est un exemple, c'est un exemple. C'est peut-être vrai. Mais vous voyez, ce n'est pas de ce genre-là. Avec Christ, en fait, l'œuvre de sanctification, elle commence avec la nouvelle naissance. À ce moment-là, le Saint-Esprit commence déjà à vouloir accomplir l'œuvre de transformation, de changement. Et puis après, il y a l'entrée dans la nouvelle vie. Ce qu'on appelle la régénération, la nouvelle naissance, eh bien, ça signifie que, quelque part, Dieu nous fait rentrer quelque chose de neuf, de nouveau. Et ça intervient très vite. Ça veut dire que, tout à coup, ce que je faisais avant et qui me semblait juste, cette deuxième étape, rentrer dans la vie nouvelle, eh bien, ça va être quelque chose qui va bouleverser, apporter du changement, si je laisse l'œuvre du Saint-Esprit agir en moi. Est-ce que je suis déjà entré dans cette partie-là? Est-ce que je dis, Seigneur, transforme-moi afin que cette vie nouvelle soit véritablement effective? Ou est-ce que je reste dans mon salut, simplement? Je suis sauvé, alléluia! Et puis je chante le dimanche, des bons cantiques, et puis il y a de la belle musique, etc. Mais ce n'est pas uniquement ce que Dieu veut. Dieu veut notre louange, mais il veut que aussi nous acceptions de vivre cette vie nouvelle qu'il nous donne. Et qui doit transformer et aussi enlever tout ce qui est de l'ordre du péché, des habitudes que nous avons eues en étant en dehors de lui. Alors après, arrivent des notions comme la justification. Et j'aimerais vous présenter un tableau qui cale un petit peu la question de la justification et de la sanctification, qui sont deux notions que je sais que Michel a très à cœur de le poser quand il fait des préparations au baptême, et moi aussi. Ça veut dire que quelque part, c'est important que ceux qui se donnent à Christ se disent, ça veut dire quoi être justifié? Alors, j'ai repris juste quelques lignes, et qui différencie de la sanctification. Être justifié, ce n'est pas être sanctifié ou vivre la sanctification. La justification, d'abord, c'est un statut légal. Vous voyez ce que ça veut dire? Non? Pas tout à fait? Bon, est-ce que tu es français? Oui. Ça, ton identité, c'est un statut légal. Moi, quand je suis né, j'ai découvert à 15 ans que je n'étais pas français. J'ai dit, ah bon? On m'a fait découvrir le jour où je devais partir avec les jeunes de l'église au Danemark. Tout le monde m'a dit, oui, mais vous ne pouvez pas avoir de passeport, vous n'êtes pas français. Et depuis quand? Depuis toujours. Mais alors, j'ai quoi? Vous n'avez aucune nationalité, vous êtes apatride. Donc, mon statut à moi, c'était d'être apatride. Il a fallu que j'attende de faire mon service militaire pour choisir et dire, bon, je suis français. Là, la justification, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui dit... Si tu crois en moi et à l'œuvre que j'ai accomplie à la croix, si tu crois que je suis le Fils de Dieu, si tu crois que je suis, parce que je suis le prince de la vie, je suis ressuscité d'entre les morts, et si tu crois que je reviens bientôt, alors je suis ton sauveur. Et ton statut légal, c'est que tu es sauvé. C'est ton statut. Et tu n'as rien à faire, tu as juste à croire. T'as pas besoin d'aller à la gendarmerie comme moi je l'ai fait pendant un mois ou deux mois pour dire, bah voilà, je voudrais changer de statut. Je veux plus être apatride, je voudrais être reconnu comme. T'as pas de choses à faire. Tout ça, c'est déjà fait par Jésus-Christ à la croix et par la puissance de sa résurrection. Ton statut, si tu crois cela, alors tu es à Christ et tu es sauvé. Et puis ce statut-là, il est acquis une fois pour toutes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin tous les matins, ah oui, donc il faut que je me rappelle que d'appeler tel numéro pour vérifier que je suis bien toujours. Ce n'est pas Windows 11. Hein, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour renouveler la validité de votre ordinateur. Non, non. Une fois que tu crois, le salut de Christ est pour toi définitivement. Il a lieu une fois pour toutes. Et puis, j'ai rien à faire. Moi, c'est un statut qui me plaît bien, moi. Un statut où j'ai rien à faire et où je suis tout bénéficiaire, j'aime bien. Il y a beaucoup dans l'histoire de l'Église, avant le XVIe siècle, l'Église croyait qu'il fallait, tous les croyants croyaient qu'il fallait faire travailler à son salut, faire des bonnes œuvres, ceci, cela, etc. Et aujourd'hui, on peut avoir des chrétiens qui sont aussi dans ce registre de pensée. Tu n'as rien à faire pour être sauvé, c'est une œuvre qui t'est acquise par Christ à la croix. Est-ce que tu le crois, cela ? Est-ce que c'est ta foi ? Et puis, cette œuvre-là, elle est parfaite. Tu n'as rien à y ajouter pour être justifié. Tu n'as pas quelque chose à apporter. Moi, je me rappelle que quand j'ai voulu être français, le gendarme qui me recevait me dit, « Bon, voilà, pour être français, ce n'est pas compliqué. À l'âge de 17 ans, vous venez nous voir. » Et puis, vous choisissez soit faire votre service militaire au Vietnam, soit de faire votre service militaire en France. Mon vietnamien était relativement limité, j'avais même pas un mot, mais j'étais tellement en colère de pas être français que je suis rentré à la maison, ma mère dit « Comment ça s'est passé ?» Je dis « Je vais faire mon service militaire au Vietnam. » Après, j'ai appris que ça durait 3 ans. Je dis « Je vais faire une grâce à l'armée française. Je veux intégrer ses régiments. » Et j'ai fait, et je suis devenu français. Ça m'a coûté une année de ma vie, comme tous les Français de l'époque. Mais ça m'a coûté. Pour être au bénéfice de la justification de Christ, c'est gratuit. Il n'y a rien à faire. Et puis, une fois, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a dit au travail, « Oui, mais vous, monsieur Wang To, vous êtes mieux que moi, et donc Christ ne nous a pas sauvés de la même manière. » J'ai dit, ah bon ? Puis on a discuté, et je lui ai dit, mais la grâce dont je suis le bénéficiaire est la même grâce que celle dont vous êtes l'objet. Il n'a pas payé plus cher pour vous. Même si on est différent, même si on a choisi des choses, il a payé le même prix. Tout ça fait qu'on est justifié pleinement, entièrement. Mais alors, quelle différence avec la sanctification ? Mais à la sanctification, ce qui est dit dans la première phrase, c'est une condition intérieure. C'est quelque chose qui concerne l'intérieur. Un des exemples dans l'Écriture qui en parle, c'est quand au chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques, vous avez la description du règne d'Ézéchias. C'est un roi dont les parents étaient plutôt, je dirais, loin de Dieu, qui avait rejeté Dieu, etc., au point que son père avait fermé les portes du temple, qu'il avait tout déserté, que la loi avait été oubliée, etc. Et puis quand il meurt, ce père, le fils Ézéchias, lui, était sensible à l'œuvre de Dieu. Et la première chose qu'il a faite, c'est de réouvrir le temple et d'adorer Dieu. On a retrouvé le livre de la loi, il s'est effondré en disant « Mais comment on a pu s'éloigner de Dieu de cette manière-là » Et le premier ordre qu'il a dit, il a fait venir les sacrificateurs, 2 Chroniques 29, 4, il fait venir les sacrificateurs et les lévites, il les assemble sur la place de l'Orient. Tiens, je relis. Ah ouais, c'est traduit oriental, mais ça veut dire la place de l'Orient. Donc il les rassemble sur la place de l'Orient. « Merci d'être venu. » Et puis il leur dit, « Maintenant, sanctifiez-vous. » C'est le même ordre. Il s'adresse aux prêtres, aux lévites, « à Lorient, sur la place de Lorient, et dit « Maintenant, sanctifiez-vous » C'est-à-dire transformez et ôtez de vos vies intérieures, la condition intérieure, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Et c'est cela la sanctification, c'est faire que ce qui est à l'intérieur et qui n'est pas à la gloire de Dieu soit pris et mis dehors. Or, je vous assure, frères et sœurs, que nous sommes tellement récalcitrants pour changer. Il faudrait que la prière de Christine de ce matin, nous puissions vraiment, véritablement, tous, chacun pour notre part, la dire. Tu es venu pour apporter du changement. Je veux changer. Ézéchias dit à ses sacrificateurs, et le Nouveau Testament dit, vous êtes prêtres et sacrificateurs, mettez en dehors, rejetez. Se sanctifier, c'est se séparer, pas se séparer du monde, etc. C'est se séparer du péché. L'étape initiale de la sanctification implique une rupture définitive avec la domination et l'amour du péché. Parce que je vous assure que nous aimons le péché. Sinon, ça serait facile d'être saint. Oui. Dans un temps de formation que j'avais avec en addictologie, j'ai fait plusieurs semaines avec des membres d'associations d'entraide, et à un moment donné, le formateur qui s'appelait Robert, Robert dit à tout le monde, il s'agit aussi de reconnaître que l'alcool, c'est bon. Puis alors, il y a une levée de bouclier des mouvements d'entraide qui étaient là. Mais en aucun cas, l'alcool est bon. Mais non, c'est notre perte, ça nous fait du mal, etc. Et puis, Robert les a regardés. Mais alors, pourquoi il y en a qui boivent et qui en sont dépendants si c'est mauvais? Ben oui, parce que, quelque part, ça apporte quelque chose. Et le péché dans nos vies répond à des choses qui sont en nous. Des choses de facilité, mais aussi de plaisir. Et il s'agit de se libérer des choses qui sont néfastes afin qu'on retrouve des choses qui sont bonnes et agréables. On n'a rien à perdre au change en renonçant au péché. Mais pour autant, dans la nature humaine, on se dit, mais pourquoi je changerais? Pourquoi j'arrêterais d'être colérique? Pourquoi j'arrêterais d'être critique? Pourquoi j'arrêterais tel comportement ou ceci ou cela? Mais parce que, quelque part, ça génère aussi un certain plaisir, etc., de domination, que sais-je. Or, la sainteté apporte d'autres plaisirs, d'autres satisfactions. Nous sommes acteurs, là il est dit, nous sommes acteurs et participants de notre sainteté. Oui, nous sommes des acteurs pleins et entiers. C'est John Murray, un théologien anglais qui a fondé en Écosse une école biblique, etc. Et il disait, il se refusait à dire que Dieu et l'homme coopèrent dans la sanctification pour signaler que l'œuvre de Dieu est essentielle et prépondérante et qu'en fait la nôtre est secondaire. Oui, peut-être, on peut le voir comme ça. Mais si Dieu veut nous sanctifier et que nous disons non, eh bien vous savez quoi? Nous avons un droit de veto. C'est un peu comme aux Nations Unies, vous savez. Vous avez une petite nation, ou une qui est toute isolée, mais elle a le droit de veto. Vous avez tous les grands pays qui disent, etc., et puis tout à coup, vous avez l'autre. Ouais, ben moi, je ne suis pas d'accord. Ben, la sanctification vis-à-vis de Dieu, c'est, j'ai un droit de veto. Je peux faire obstacle à la volonté de Dieu dans ma vie. J'ai un pouvoir de blocage à l'aide toute puissante de Dieu. Et à un veto que Dieu respecte. Dieu ne me forcera pas à changer. Ça, c'est chouette, hein? Hein? C'est pas merveilleux, ça? Et donc, je passe à côté d'une vie de grâce et de bénédiction parce que je dis non. Ou alors je dis mais. Vous savez, le mais, c'est aussi un petit mot qui bloque la grâce de Dieu. Je vais vous utiliser une image qui va plaire à Michel. Imaginez un jardin. Dieu, il est comme le soleil, la pluie, la source et la puissance de vie qui fait croître les plantes. Et puis le croyant, c'est le jardinier. Ça te plaît, ça, Michel, hein? Hein, ouais, c'est une belle image, ça. Hein, il est jardinier de son propre jardin. Dieu fournit tout ce qui est nécessaire à la croissance. La lumière, l'eau, la terre fertile. Sans lui, aucune plante ne peut pousser. Mais le croyant doit arracher les mauvaises herbes, arroser régulièrement, planter les bonnes graines, protéger les jeunes pousses. Puis s'il néglige son jardin, eh bien, même si le soleil brille et la pluie tombe, les ronces prendront le dessus. On est exactement dans l'image de la vie chrétienne, à savoir que Dieu donne sa grâce, le Saint-Esprit, sa parole. Il donne Jésus-Christ et les moyens d'une croissance spirituelle, mais le croyant doit coopérer. Est-ce que tu veux coopérer? Est-ce que je veux coopérer? Moi, je veux être honnête. Il y a des moments où je ne coopère pas avec Dieu. Je suis dans mes pensées, dans mes certitudes, mes convictions. Mais je peux choisir d'obéir. J'ai entendu, qui a dit obéir tout à l'heure, Delphine? L'obéissance, c'est un chemin, un élément, un outil. Alors on pourrait dire obéir, mais aussi croire. C'est-à-dire, on obéit parce qu'on croit. Les deux sont complémentaires. Et donc parce que je crois que le chemin de Dieu, l'œuvre de Dieu peut s'accomplir et que j'obéis, ce que Dieu aime, ce n'est pas les sacrifices, c'est l'obéissance. Eh bien, je peux me repentir et fuir le péché. Quand j'ai préparé cette prédication, je trouvais que c'était un thème dur. Et puis cette semaine, j'étais amené à recevoir plusieurs personnes. Et il y a une personne qui est pasteur et qui est venue et qui était en difficulté dans sa vie d'église, etc. Pas dans sa vie personnelle, mais dans sa vie d'église, avec des choix, etc. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut parler? Et puis il est venu, on est resté 5 heures ensemble. 5 heures. Et quand on a prié ensemble, il me disait qu'il se repentait de ce qu'il avait pu faire comme choix, etc. Cet homme s'est écroulé en larmes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un qui soit saisi d'un tel esprit de repentance. Et vous savez quoi? J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau. La repentance, ce n'est pas de l'humiliation. C'est pleurer sur le péché qui a été là et qu'on rejette. Et j'avoue que ça m'a saisi, profondément saisi et bouleversé. La sanctification augmente aussi tout au long. On peut passer à peut-être... voilà. Les phases de sanctification, je ne vais pas les expliquer, mais c'est quelque chose qui fonctionne tout au long de sa vie. Ça commence, la sanctification, au moment de la conversion. Et puis ensuite, tout au long de notre vie, eh bien, elle a son rôle à jouer. Alors vous savez, ça c'est un diagramme que j'ai pris sur un ouvrage de Wayne Grudem, et il dit, vous savez pourquoi j'ai fait ce diagramme comme ça? Parce que notre sanctification, ce n'est pas une ligne droite qui part vers le ciel. Il y a deux moments où je dis oui, et puis je reviens en arrière, et puis je rechute, puis il y a d'autres choses qui apparaissent, et puis je prends du temps avant de dire oui, et puis etc. Donc, la sanctification, alors je vais peut-être en décourager quelques-uns. Là, je vais en perdre quelques-uns, qui ne seront pas là dimanche prochain. Elle s'arrête à la fin de notre vie. C'est-à-dire jusqu'au bout. Parce qu'il y en a certains qui pourraient dire, mais ça dure jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je rejoigne le Seigneur, où les promesses sont que nous aurons une nature glorieuse, glorieuse lorsque nous serons près de lui. Mais qui dépendra de tout ce que nous aurons accepté auparavant, qu'il transforme et qu'il touche. Moi, je sais bien que dans l'éternité, vu ma vitesse de sanctification et celle de ma femme, je vais la regarder d'en bas. Ah ouais, vous savez, notre nature doit être transformée maintenant et c'est en fonction de ça, on sera sauvés. Mais quel sera le degré de sanctification que nous aurons accepté dans notre vie jour après jour? Alors, je vais m'arrêter là. Je voudrais juste mettre le vêtement que tous les chrétiens devraient porter. J'aime beaucoup ça, moi. Je voudrais qu'on ait tous ce t-shirt sur nous, sinon physiquement, mais en tout cas... ce corps est en chantier. Voilà. Parce que la sanctification est en cours. Le boulot n'est pas terminé. Francine, quand elle est venue au Havre, qu'on était fiancés, elle est rentrée dans la ville du Havre, et on a à l'entrée du Havre un nœud routier qui s'appelle la Brecque. La Brecque, et quand elle a vu, elle dit « Waouh, c'est en chantier, dis donc oh, !» Ils font plein de trucs pour contourner, pour aller vers le port, vers les villes. Elle était impressionnée. 5 ans après, on était mariés, on y retournait, on retournait régulièrement, elle dit « Ah, c'est toujours en chantier, ils sont un... » 25 ans après, ils sont toujours en chantier. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont un petit peu comme ça. Ils sont toujours en chantier, mais il n'y a rien qui est fini. Est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu, avec ta coopération, accomplisse cette œuvre-là dans ta vie? Parce que tu vas vivre des victoires. Et il y a des choses, quand les gens te regardent, ils disent, ouais, là, il y a des choses qui sont belles, hein, c'est fini. Bon, il y a encore du boulot à côté, mais là, c'est fini. Vous voyez? Donc, après, c'est, j'aime bien ça, c'est attention, il y a la croix, et Dieu est en accompli, est en travail en cours. L'œuvre de Dieu est en cours. J'aimerais bien que, me regardant, ceux qui me voient disent, oui, l'œuvre de Dieu est en cours dans sa vie. Voilà, je voudrais terminer sur cette chose, ces pensées. Vraiment, j'ai été touché cette semaine par plusieurs expériences, par plusieurs rencontres d'hommes, de femmes aussi, qui ont accepté de vivre cette œuvre de sanctification dans leur vie. Et prions pour que cela puisse continuer dans notre existence. Amen.